Bonsoir, frères et sœurs, vous qui êtes là. Nous sommes heureux de pouvoir ensemble partager la parole de Dieu. Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir le Saint-Livre dans le livre des Actes au chapitre 20 et à partir du verset 7, nous allons faire la lecture. Nous lisons. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras et en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller à l'église et de redouter que le pasteur prêche longtemps, jusqu'à minuit. Je ne sais pas. Quelquefois, on peut être pris, tenté de penser cela. Toujours est-il qu'un personnage l'a vécu, Eutychus, comme nous l'avons lu. Paul prêche, il est sur le départ, et je pense qu'il avait un message important à communiquer aux disciples, à Eutychus qui était là, et à nous également. Ce que je dis en introduction sur le ton de l'humour nous renvoie quand même quelque chose d'important, parce que si la Bible a voulu, si la parole de Dieu a souligné le fait qu'il a prolongé son discours jusqu'à minuit, ça a quand même une signification pour nous. Parce que je pense qu'au travers de ces quelques versets, bien évidemment, il y a un enseignement pour nous, à nous communiquer, de la part de Dieu. Il peut y avoir, vous savez, dans notre vie, des moments où les choses se prolongent, où on arrive au milieu de la nuit, où les choses que nous vivons sont un petit peu compliquées. Et en introduction, je méditais sur ces textes, sur ces versets, et je me disais que finalement, la pensée de Dieu, le message de Dieu est toujours le même. Et que nous pouvons vivre des choses difficiles. Ce soir, nous pouvons venir dans ce lieu en ayant un arrière-plan par rapport à notre journée, par rapport à ce début de semaine qui peut être compliqué. Nous pouvons peut-être aussi dire que nous aussi, le milieu de la nuit peut être compliqué pour nous, parce que la nuit, ça nous parle de l'obscurité. Forcément, il ne faut pas être un grand théologien pour dire cela. Mais ça peut aussi nous parler de quelques épreuves, quelques difficultés. Et on sait très bien que quand il y a la journée, ça va à peu près. Quand on est entouré, ça peut aller à peu près. Mais quand vient la nuit, ça peut être compliqué. Et le message de Dieu, c'est un message qui veut se prolonger jusqu'à notre minuit, jusqu'à notre milieu, jusqu'à notre épreuve, jusqu'à nos difficultés. C'est un message qui transcende ce qu'on peut comprendre avec notre intelligence. C'est un message qui va au-delà de notre perception humaine. La parole de Dieu se répand et le message que l'apôtre Paul était en train d'annoncer, je suis persuadé, c'est un message qui annonçait la parole dans sa vérité, dans sa véracité, et c'est un message qui voulait annoncer la paix. Et ce soir, la paix, nous pouvons la connaître, quand bien même nous sommes dans des temps qui peuvent être compliqués. Job, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Job, c'est un homme qui a vécu des choses difficiles. C'est un homme qui a été entouré d'une drôle de façon. C'est un homme qui lui aussi pouvait exprimer ce qui pouvait se passer. Et j'ai relevé ce verset, il y en a d'autres dans la parole de Dieu. les terreurs le surprennent comme des eaux, un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va, il l'arrache violemment de sa demeure. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Et le message de l'Évangile, ce que ces chants nous présentaient, c'est un message qui veut nous faire remarquer, sceller notre cœur, sceller notre vie, sceller notre âme dans cette vérité que peu importe les tourbillons que nous pouvons traverser, peu importe si encore arrivé à minuit il y a un doute, il y a une difficulté, nous pouvons être secourus par le Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs détails dans ce texte qui sont parlants. Et le premier détail sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est ce que nous dit ce verset lorsque nous lisons « Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute ». Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question pourquoi c'était écrit. Pourquoi il y a ce détail dans ce texte? C'est surprenant parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qui peut bouleverser notre vie, de savoir que ce jour-là, les lumières étaient allumées. Mais je pense qu'au travers de cela, alors qu'il était minuit, on le sait, on l'a lu, et j'en ai partagé quelques points avec vous en introduction, il y a la pensée de Dieu, il y a ce que Dieu veut transmettre. Il y a toujours cette même pensée de la Genèse à l'Apocalypse, sur l'amour de Dieu, sur ce qu'il souhaite faire, ou ce qu'il veut faire, en tout cas avec les êtres humains, sur son plan, parce que de toute manière, on ne peut pas douter de Dieu. Dieu ne change pas. On ne peut pas remettre en question Dieu, son plan, son amour. Mais notre vie, oui, par contre, on peut la remettre en question. La version Parole vivante pourra dire « une chambre éclairée par un grand nombre de lampes ». Pour Dieu, vous savez, la lumière, elle est là. Pour Dieu, tout est clair. Sur vous, sur moi, sur notre vie, sur notre cœur. Il n'y a pas de zone d'ombre, d'obscurité. Il n'y a pas de partie que Dieu ignore sur notre vie. Il n'y a pas de chemin que nous avons pu prendre dans lesquels nous avons voulu, même volontairement, mettre Dieu de côté et dans lesquels Dieu est réellement resté de côté. Tout est clair pour Dieu. La parole de Dieu est claire par rapport à notre vie, par rapport au cœur de Dieu. La parole de Dieu nous amène à considérer que celui qui a pu dire un jour « Je suis la lumière du monde » est venu pour que nous puissions être éclairés et y voir clair au milieu de la nuit. Parce que bien évidemment, si ce soir on éteignait les lumières, on serait bien embêtés. Et on est tous d'accord pour dire qu'on a besoin de lumière. On est tous d'accord pour dire que dans ce texte, même si a priori, ça ne nous apporte pas grand-chose de savoir que les lampes étaient allumées. Quand même, c'est important sur le plan purement physique. Mais sur le plan spirituel, c'est pareil. On a besoin, quelque part, d'être éclairé. On a besoin de comprendre que la parole que Dieu nous a laissée est cette lampe qui éclaire nos pieds, cette lumière sur notre sentier, ce qui veut nous guider, en tout cas, parce que Dieu est d'accord de nous diriger. Dieu est d'accord de nous montrer le chemin sur lequel nous devons aller. Dieu est d'accord de venir nous bénir. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons de cela? Est-ce que nous pouvons, pas quelquefois, passer ce détail qu'il y a dans ce texte, de la même manière dans notre vie, en disant « mais peut-être que les lumières, c'est pas trop important pour moi. Peut-être que d'être éclairé dans telle et telle situation, ce n'est pas trop important, ce n'est pas utile pour moi. » Est-ce que quelquefois, spirituellement parlant, nous ne sommes pas tentés de dire « mais on verra ça une autre fois » parce qu'il semblerait qu'au point de vue de mon intelligence, de mon analyse, ce n'est pas utile que ça soit éclairé, que je sois éclairé. Laissez-moi vous dire qu'on a besoin d'être éclairé. On a besoin d'être honnête avec soi-même. On a besoin de comprendre ce que Dieu veut pour notre vie. En tout cas, si nous sommes là ce soir, c'est que je pense que quelque part, ça nous intéresse. de savoir ce que Dieu veut pour notre vie. Ça nous intéresse de savoir peut-être que dans notre cœur, il y a des zones d'ombre qu'on a voulu cacher à Dieu et que Dieu désirerait éclairer, non pas pour nous rabaisser, non pas pour se moquer de nous, non pas pour nous accabler par des remontrances extrêmes, mais parce qu'il désire restaurer notre vie, parce qu'il désire que nous puissions être éveillés, parce que c'est quand même cela dont il est question dans ce texte. Le problème pour Dieu, ce ne sera jamais la lumière. Le problème pour Dieu, ça ne sera jamais la vie, de produire la vie. Le problème pour Dieu, ce ne sera jamais de pouvoir pardonner, de pouvoir rebâtir, reconstruire. Le problème pour Dieu, dans ta vie, ça ne sera jamais de pouvoir se dire « Est-ce que je vais arriver à bénir ?» Pour Dieu, ce n'est pas ça le problème. Pour Dieu, le problème ce soir, ce n'est pas de savoir s'il pourra effectivement intervenir dans ta situation d'un point de vue professionnel, sentimental, d'ailleurs dans tous les points de vue de ta vie. Mais le problème pour Dieu, si on pourrait dire que c'est un problème ce soir, ce serait peut-être de trouver une personne qui se tienne éveillée pour pouvoir entendre ce que Dieu a à dire. Ce que Dieu recherche ce soir, ce n'est pas de faire un exposé en 3 points sur ce que lui est capable de faire, sur sa motivation à le faire, parce que la Bible nous dit qu'il est amour, et que dans le cœur de Dieu, il y a un amour qu'on ne pourra jamais comprendre à notre égard. Mais ce que Dieu attend, c'est que nous puissions ne pas être à cheval, et c'est ce que nous allons partager maintenant, ne pas être assis entre 2 mondes, entre 2 choix, entre 2 situations, ce que Dieu recherche pour pouvoir intervenir, et je le répète volontairement, parce que Dieu veut nous bénir, Dieu veut sauver ce soir, Dieu veut guérir quelqu'un, Dieu veut rebâtir une vie qui a été détruite, laminée, Dieu veut peut-être donner une direction à quelqu'un. Mais seras-tu prêt, seras-tu prête, serons-nous prêts, parce que je m'inclus avec vous, ce soir, à entendre, à être assis au bon endroit, à pouvoir méditer sur ce que Dieu veut dire, à pouvoir accepter que sa parole peut-être nous bouleverse, nous dérange, à pouvoir accepter d'être repris, pour que nous puissions méditer et nous remettre en question, et pour reprendre une image d'un texte biblique que l'on connaît bien, rentrer en nous-mêmes pour considérer ce que Dieu dit par rapport à ce que nous, nous pouvons dire. Vous l'aurez compris, Eutychus n'était pas assis réellement au bon endroit. Et bien sûr, c'est un raccourci peut-être rapide, mais c'est un raccourci que peut-être nous avons vécu et que nous vivons maintenant. Est-ce que ça peut pas être considéré? Est-ce qu'on ne pouvons, nous ne pouvons pas faire le parallèle entre comment il est, sa position et quelquefois notre vie? On est assis à un endroit, peut-être d'une oreille on écoute ce que Dieu veut, peut-être que d'un œil on regarde, et je vais le répéter pour refaire le lien, peut-être que d'un œil on bénéficie des lumières. Peut-être que dans notre vie, on sait où aller quand on a un problème, une difficulté, l'Église. On sait regarder l'œuvre de la croix quand il y a une difficulté qui se présente. On sait écouter le pasteur, un ancien, quelqu'un de spirituel. Mais il y a quand même ce partage, il y a quand même cette duplicité, il y a quand même ce regard qui est attiré vers l'extérieur. C'est pas une position favorite. C'est pas une manière de vivre qui peut nous amener. Et l'histoire de Tychus la résume parfaitement. Ce n'est pas une vie qui peut nous amener à vivre dans la paix de Dieu. C'est pas possible. Dieu veut que l'on soit entier. Dieu veut que l'on soit bouillant. Et dans un autre passage de la parole, il va même aller jusqu'à plus loin en disant « Mais si tu es bouillant, c'est bien, je reformule en version de parole vivante, mais si tu veux être bouillant, c'est bien. Si tu veux être froid, c'est moins bien, mais positionne-toi, ne sois pas au milieu. Ne sois pas, on pourrait le dire à la lumière de ce texte, ne sois pas un Eutychus. Eutychus, je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie. Oui, à part Monsieur Gau. Ça veut dire heureux. C'est vrai. C'est bien. C'est vrai. Mais il y a une autre traduction. On pourrait traduire par bon, chanceux, heureux. Mais il y a une notion dans son nom qui ramène à quelque chose de prospère. Une chance, mais qui nous amène quelque chose. Une chance qui nous fait grandir d'un point de vue matériel. Ce mot Eutychus, ça nous ramène aussi à autre chose. Ça pourrait dire, dans la version, si on prend le sens littéral, c'est frapper le but. On pourrait dire, et vous me voyez arriver, que pour Eutychus, lui, son objectif, il l'a atteint. Il a frappé le but, socialement, professionnellement, dans peut-être les objectifs qu'il s'était mis. Pour lui, cette question-là, elle était réglée. Pour lui, son objectif, ça a toujours été ça, et il est arrivé jusqu'à ses fins. Et c'est pas quelque chose qui est contre Dieu. On peut vouloir réussir, on peut réussir, et merci Seigneur si nous réussissons. Le problème de Eutychus, c'est qu'il avait négligé tout le reste. Et c'est quelque chose, une question qui doit nous faire réfléchir, qui doit nous amener à réflexion, à en savoir, mais finalement ce soir, finalement demain, où est-ce que je suis assis spirituellement? Où est-ce que je me positionne? Est-ce que je suis assis avec Dieu, avec Christ? Est-ce que ma vie est stable? Parce que, je le répète pour éviter à quelques personnes de culpabiliser parce qu'ils réussissent professionnellement, on peut être assis avec Christ et frapper le but, arriver à prospérer si Dieu le permet. C'est une bénédiction. Le problème, et vous l'aurez compris chez Eutychus, c'est que cette question n'était pas réglée. Et au travers de ce texte, finalement, parce que ce qui nous intéresse, c'est bien de savoir ce que Eutychus a vécu il y a de ça des centaines et des centaines d'années. Mais ce qui nous intéresse, c'est moi, c'est nous, c'est où est-ce que j'en suis avec Dieu? Est-ce que je suis sans cesse là entre je bénéficie de la lumière et je retourne dans le monde? Est-ce que je vais d'un côté ceci, de l'autre là-bas avec mes amis, avec le... On peut mettre ce que l'on veut et sans prendre position. Et c'est cela qui doit nous intéresser. Et c'est cela qu'il faut que nous puissions méditer par rapport à Dieu. Parce que Dieu veut, et je le répète d'une manière volontaire, Dieu veut que l'on prenne position. Dieu veut que l'on soit entier avec lui. Je méditais, et il y a ce texte, c'est l'apôtre Paul qui le dit. L'apôtre Paul va prendre beaucoup d'images de l'athlète, du sportif, et va dire, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, avoir prêché aux autres. Je cours pas comme à l'aventure. Je sais où je vais, c'est ça que ça veut dire. Si je mène un combat, si je fais une action, ce n'est pas au hasard, c'est voulu, c'est dirigé par Dieu. Et le problème de Eutychus, c'est que lui, il vivait l'inverse. C'est que lui, il partait à l'aventure. C'est que lui, sa vie, il avait laissé au gré du hasard. Il se disait peut-être pour son âme, on verra plus tard. Je m'en occuperai. La question spirituelle qui peut-être revenait sans cesse dans son cœur, parce que quand même, si ce jour-là il était présent, c'est que il se passait quelque chose. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de venir à l'église. C'est pas suffisant d'entamer quelques démarches. C'est d'aller jusqu'au bout. Parce qu'avec le Seigneur, on ne va pas à l'aventure. Le Seigneur nous a montré un chemin. Un chemin droit, un chemin où il n'y a pas d'équivoque. Et bien sûr, Jésus-Christ a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On ne peut pas dire « Je vais à l'aventure avec le Seigneur, j'essaie, je verrai ». Aussi, on peut le dire. Mais ce n'est pas quelque chose qui va nous amener à rencontrer, à découvrir Jésus-Christ. La suite de ce texte, c'est quelque chose, on aurait pu dire, de logique. Parce qu'il nous dit « Eutychus s'endormit ». Je marche à l'aventure. J'essaye. Peut-être que c'est des coups dans l'air, c'est un coup d'épée dans l'eau, vous savez cette expression. J'essaye. Et la conclusion de cette manière d'agir, de faire, c'est automatiquement le sommeil. Et on le verra tout à l'heure, c'est quand même la mort spirituelle. Le problème, pour Eutychus, ce n'était pas le discours. Le problème, dans ce lieu, ce n'était pas la lumière. Parce que si c'est noté qu'il y avait beaucoup de lumière, de lampes allumées, c'est quand même pour qu'on comprenne qu'il n'y avait aucune raison qu'il s'endorme. C'est pour qu'on comprenne que tout était fait pour qu'il reste éveillé ou qu'il s'éveille d'une manière spirituelle. Le problème, c'est son cœur, c'est sa pensée, c'est sa conscience, et c'est ce qui sera toujours le problème pour notre vie. Cette bataille qu'il peut y avoir entre ce que moi je pense et ce que Dieu veut pour ma vie. Cette bataille, ce combat qu'il peut y avoir entre ma conscience qui me reprend lorsque je suis sur un mauvais chemin et ma manière d'étouffer ma conscience pour que je puisse être amené à faire toujours ce que je veux. Cette conscience qui peut-être de temps en temps, ou souvent je l'espère, me ramener à la croix en me rappelant ce que Jésus-Christ a fait, et moi de ce que je veux éteindre cette conscience, éteindre la croix, peut-être oublier même la croix. L'apôtre Paul pourra dire à un jeune pasteur, souviens-toi de Jésus-Christ, est-ce que ce qu'il va dire à ce jeune pasteur, c'est quelque chose de surprenant, où nous ne pouvons pas nous en approprier quelque part un petit peu ce verset pour nous dans notre vie? Est-ce que Eutychus, peut-être, n'avait pas besoin de se rappeler Jésus-Christ? S'il s'était souvenu, bien sûr, pour nous, c'est cela l'important. S'il s'était rappelé Jésus-Christ, si nous, nous nous rappelons Jésus-Christ, est-ce qu'il sera encore question de se poser la question, mais où est-ce que je vais m'asseoir? Où est-ce que je vais me positionner? Qu'en est-il de l'amour de Dieu? Le problème, ça sera toujours notre cœur. Et c'est cela qu'il faut donner à Dieu. C'est cela qui nous conduira toujours dans un sommeil. Le sommeil, c'est l'image de, on peut dire, de l'obscurité, quelquefois dans la parole, de l'image de la mort. Et laissez-moi vous dire, et peut-être j'anticipe un peu sur mon message, mais lorsque Eutychus s'endort, il n'y avait pas de différence entre le moment où il s'est endormi et le moment où il était à terre et qu'il est tombé de 3 étages. Spirituellement, c'est la même chose. Et nous devons comprendre l'amour de Dieu qui nous ramène sans cesse à comprendre ce qu'il a prévu pour nous, à comprendre que ce n'est pas par nos propres forces qu'on va pouvoir décider de le suivre, de lui obéir, d'être assis au bon endroit, au bon moment. Mais c'est lui qui a tout pourvu, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a tout accompli sur le bois de la croix pour que nous puissions obtenir le pardon, pour que nous puissions être restaurés et que nous puissions vivre une vie où la liberté fait partie de notre chemin, où la paix fait partie de notre chemin. Pas une vie où nous nous posons toujours cette question, mais finalement, est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Mais finalement, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis pardonné? Il y a ce psaume, on pourrait le lire ensemble, c'est le psaume 13. Psaume 13, verset 4. « Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Donne à mes yeux la clarté. » Vous savez, c'est une prière toute simple. Je ne sais pas, peut-être ça nous prend 3 secondes, 5 secondes de faire cette prière. Mais laissez-moi vous dire que si Eutychus avait fait cette prière, il ne serait pas tombé. Entraîné par le sommeil, il tomba. On a d'autres choses à vivre qu'être entraîné par notre sommeil. La vie chrétienne, c'est autre chose que de tomber à chaque fois parce qu'on n'a pas veillé, parce qu'on a oublié peut-être la croix, parce qu'on n'a pas compris que la lumière de Christ, c'était aussi la vie. Et on a besoin d'expérimenter. On a besoin, peut-être que quelqu'un ce soir a besoin de dire, mais donne à mes yeux la clarté, montre-moi que je puisse voir avec tes yeux, avec ton regard, que je puisse comprendre le message de l'Évangile, que je puisse comprendre cette bonne nouvelle, que je puisse comprendre qu'il y a plus à vivre avec Jésus-Christ, qu'un chrétien ne doit pas être là dans l'affliction éternelle, dans le découragement, mais que nous pouvons vivre ce que l'apôtre Paul a dit, mais réjouissez-vous, donne à mes yeux la clarté. Qui ce soir peut-être va oser prier de la sorte? Seigneur, peut-être que ça fait longtemps que je viens là, peut-être ça fait longtemps que j'entends ce message, mais peut-être que j'ai besoin de comprendre tout à nouveau la lumière de la croix, de voir ce que tu as prévu pour moi. Et je terminerai juste par ces deux pensées, parce que c'est ce que Jésus-Christ a fait. Vous savez, tout le monde était catastrophé. Je ne sais pas comment on vivrait cela si un homme tombait devant nous du 3e étage. Je ne pense pas qu'on le vivrait bien. Je ne pense pas. L'apôtre Paul va descendre et la Bible nous dit qu'il va faire 2 choses. Il va se pencher sur lui et il va le prendre dans ses bras. Et vous voyez, Eutychus, peut-être qu'il n'avait pas tout compris, mais on n'a pas besoin de tout comprendre pour que Dieu nous sauve. On n'a pas besoin d'être un grand théologien pour que Christ se penche sur notre vie. On n'a pas besoin d'avoir un cerveau à 22 étages, de connaître tous les livres de la Bible par cœur, pour que Christ nous prenne dans ses bras. Parce que ce que l'apôtre Paul a fait, c'est ce que Jésus-Christ a fait tout le long de son ministère terrestre, et c'est ce qu'il a accompli sur le bois de la croix. Ésaïe 53 pourra nous dire, mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui ce soir peut reconnaître qu'on s'est trompé, que je me suis trompé, que peut-être j'ai pas veillé, j'ai pas su rester éveillé par rapport à la lumière, par rapport à Jésus-Christ? Mais ce soir, c'est pas grave. Ce qui est important, ce n'est pas d'être dans les remords perpétuels. Ce qui est important, c'est de comprendre que Jésus peut encore se pencher sur nous, que Jésus est encore là pour nous pardonner, que Jésus-Christ est encore là pour nous entourer de ses bras d'amour. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras. C'est cela le message de l'Évangile, c'est cela le message de la croix, c'est cela que Christ a accompli, pour que tous les jours nous puissions expérimenter cette parole. Est-ce que quelqu'un ce soir s'est déjà endormi d'une manière spirituelle? Mais oui, moi le premier, mais c'est pas grave, les bras de Christ sont encore là. Est-ce que quelqu'un est tombé, a basculé? Vous savez, peut-être que Eutychus ne pensait pas que ça allait lui arriver. Il y a des fois dans notre vie, on peut se laisser prendre par des pièges, par des chemins qui nous font basculer, on n'imaginait même pas. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas un problème pour Jésus-Christ. Le problème, c'est de trouver un cœur qui ce soir va dire, Seigneur, j'ai besoin de retrouver cette clarté de l'Évangile, cette clarté de la croix. J'ai besoin de sentir. Et quand je dis sentir, c'est une image. J'ai besoin d'être entouré, d'être saisi par tes bras, comme tout à nouveau. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce jour-là, lorsque Christ a été crucifié, pas grand monde a reconnu le bras de l'Éternel. Et ce soir, est-ce que vous allez le reconnaître? On pourrait prier un instant. Père, merci pour ta parole. Merci pour ces vérités que tu nous rappelles. Merci pour l'Évangile, cette bonne nouvelle que tu as voulu nous laisser, pour que nous puissions voir, avoir cette clarté, ne pas être pris par ce sommeil qui nous mène à la mort, mais être éveillés pour que nous puissions vivre, marcher en nouveauté de vie. Comme nous avons chanté, tu peux naître de nouveau. Seigneur, c'est cela ta volonté, ton plan. Merci de venir parler à nos cœurs, insister, de venir graver en lettres d'or ton plan d'amour, tes projets pour nos vies, de venir nous rappeler que ce soir encore, tu peux te pencher sur une vie, sur un cœur, sur une personne. Ce soir encore, tu peux nous envelopper par tes bras, parce que tu nous aimes, pour nous restaurer. Seigneur, oui, nous voulons reconnaître l'œuvre de la croix. Nous voulons la prendre pour nous ce soir. Qu'elle soit véritable, gravée dans nos cœurs. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire, tout ce que tu as déjà accompli. Merci, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.